Le magazine que vous allez suivre est une rediffusion. Décryptage. Véronique Rigolet.
Et dans Décryptage ce soir, narco-banditisme. La France est-elle véritablement en voie de mexicanisation ? Même si le pays n'est pas encore loin de là un narco-État, l'essor du trafic de drogue dans l'Hexagone est tel qu'il génère désormais entre 3,5 et 6 milliards d'euros par an. Un pactole qui attire les convoitises de nombreux gangs rivaux qui se livrent une guerre de territoire sanglante, et pas seulement à Marseille, la violence gagne aussi les villes moyennes, de Rennes à Poitiers, où plusieurs fusillades meurtrières ont eu lieu ces dernières semaines, avec une nouvelle génération de criminels, de tueurs à gages même, de plus en plus jeunes, aux méthodes et à l'image des sicarios d'Amérique latine. La France a-t-elle atteint un point de bascule, comme s'alarme le gouvernement ? On en parle ce soir avec nos invités. En ligne avec nous, Michel Gandillon, expert associé au pôle sécurité-défense du CNAM et auteur de Géopolitique du crime organisé. Et à mes côtés dans ce studio, Frédéric Saliba, journaliste spécialiste du crime organisé et de l'Amérique latine, auteur de Cartel, voyage au pays des narcos, qui vient d'être publié aux éditions du Rocher. Bonsoir à tous les deux.
Bonsoir.
Bienvenue sur
Bonsoir.
RFI. Frédéric Saliba, vous avez vécu longtemps au Mexique, une vingtaine d'années. Est-ce qu'on peut vraiment dresser un tel parallèle entre le narco-banditisme en France et les cartels d'Amérique latine ?
Non, alors évidemment, attention à l'amalgame. Hein. On n'est pas dans les mêmes proportions, en fait. Quand on parle de mexicanisation, ça sous-entend quand même d'abord des chiffres de violence qui n'ont quand même rien à voir entre le Mexique et la France. Au Mexique, vous avez à peu près 30 000 homicides par an, dont la majorité sont liés au narcotrafic et au cartel. En France, vous avez l'année dernière à peu près un peu plus de 407 homicides liés au narcotrafic. Donc vous voyez bien, on n'est pas dans la même proportion par rapport à un pays dont la population sera à peu près le double, le Mexique, de la France. Donc non, sur le plan de la violence, on n'est pas dans la mexicanisation. Ouais. Narco-État, ça impliquerait que nos institutions soient complètement gangrénées par le crime organisé. Alors la police, les juges, les douanes, les militaires, enfin, on n'est pas dans une situation de narco-État. Cela dit, il y a en effet des similitudes, et moi j'ai passé plus de 16 ans au Mexique et j'y retourne régulièrement et je peux vous dire que en tout cas, il y a des similitudes entre des phénomènes et notamment, par exemple, la jeunesse. Quand on parle au Mexique, on parle beaucoup de niños sicarios, d'enfants tueurs, par exemple. C'est un phénomène. Quand je suis arrivé, là, moi, je suis rentré il y a à peu près un an et demi. C'est le moment où a émergé vraiment ce phénomène et ça m'a quand même alerté parce que une impression de déjà-vu.
Alors, encore une fois... Avec ce qui se passe en France, hein, à nouveau. Hein.
Exactement. Enfin, je parle des crimes qui peuvent se passer où il y a des mineurs comme ça qui sont impliqués et qui tirent. Il y a aussi un autre phénomène qui est similaire à un phénomène du Mexique, c'est les armes employées, c'est-à-dire des kalachnikovs, c'est-à-dire des armes de guerre, des fusils mitrailleurs, qui sont dans les mains de gens de plus en plus jeunes et qui font des victimes collatérales, si je peux me permettre, en tout cas avec justement des gens innocents, des enfants, des adultes qui sont pris pour cible pendant ces fusillades. Et puis vous avez aussi un phénomène par rapport à ces drogues de synthèse qui sont en train d'exploser, je pense qu'on en parlera, et qui, en fait, on repère des laboratoires de chimistes sur le territoire français, sur le territoire européen, avec des méthodes et même des chimistes latinos qui montrent quand même les relations qu'il peut y avoir entre les mafias européennes. En France, je ne parle pas vraiment de cartel, je parle plutôt de gang. On en parlera avec une volonté de devenir, donc une cartélisation, si on peut dire, une volonté de devenir des cartels. Mais par contre, en Europe, il y a des cartels très puissants qui sont en relation avec les cartels mexicains.
Donc la situation est inquiétante, même si on ne peut pas encore la comparer tout à fait avec le Mexique. Michel Gandillon, comment expliquer cette expansion territoriale du trafic de drogue en France qui touche désormais tout le territoire, les grandes villes, mais également les villes moyennes et les campagnes.
Mais écoutez, je pense que c'est lié à l'explosion du marché des drogues en France ces dernières années. Si on regarde un peu les chiffres, on voit qu'entre 2010 et 2017, le chiffre d'affaires des drogues en France a quasiment doublé.
On parle de quelle drogue ? On parle de quelle drogue ?
On parle de la totalité du marché des drogues. Hein,
cannabis, cocaïne.
Essentiellement, la résine de cannabis, la cocaïne, les drogues de synthèse comme l'ecstasy. Donc ce marché a doublé entre 2010 et 2017. On est passé à environ de 2 milliards d'euros à plus de 4 milliards. Et le problème, c'est que les chiffres qu'on donne de 3,5, 4 milliards d'euros, c'est des chiffres qui datent déjà de 2017. Et entre-temps, on a eu notamment les chiffres de la consommation de la cocaïne entre 2017 et 2023 qui montrent une augmentation énorme de près de 70%. Donc je pense qu'aujourd'hui, il faut probablement doubler ces chiffres pour avoir une idée du chiffre d'affaires du marché des drogues en France.
Est-ce que la période du confinement, du Covid, a joué un rôle d'accélérateur, notamment dans les villes moyennes ?
D'accélérateur, je ne sais pas, dans la mesure où le marché des drogues s'est plutôt ralenti en France pendant la période du confinement. C'est le point de bascule avec le Covid, ça a été le changement, l'accélération des modalités de fonctionnement des trafics avec le développement de la livraison à domicile. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous avez un trafic qui est structuré, une offre qui est structurée à partir des points de deal de cité, qu'on connaît bien depuis une quarantaine d'années en France, et puis les systèmes de livraison à domicile qui sont beaucoup développés avec le confinement.
Une sorte d'ubérisation du trafic de drogue.
Oui, on peut parler d'ubérisation du trafic de drogue. L'ubérisation est généralisée aujourd'hui, c'est-à-dire que les nouveaux modes de vie, notamment dans les métropoles, font que les gens se font livrer à domicile divers produits, et c'est pareil pour les drogues.
En tout état de cause, on note également l'échec des pouvoirs publics depuis 30 ans dans cette lutte contre la drogue, pour en arriver à la situation où on en est aujourd'hui.
Oui, bien évidemment, puisque je vous ai dit que le phénomène d'implantation des points de deal dans les métropoles, dans ce qu'on appelle les banlieues, les quartiers sensibles, a commencé au début des années 80. Donc ça fait près de 45 ans que, si vous voulez, ça dure. Et au fur et à mesure de la croissance du marché des drogues, cette implantation territoriale des gangs s'est développée. Et là, on a atteint effectivement un point de bascule avec une multiplication des phénomènes de violence, d'enracinement territorial et de nuisances extrêmes pour des centaines de milliers de Français.
Alors justement, comment lutter contre ce narco-banditisme ? Le gouvernement français promet une nouvelle loi et un nouveau tour de vis. Est-ce la bonne solution ? Frédéric Saliba, comment les Mexicains, eux, ont fait ?
Alors écoutez, au Mexique, si on remonte en fait en 2006, il y a un président Felipe Calderón mal élu, qui est élu avec une marge très très réduite, 0,5%, face à son adversaire Andrés Manuel López Obrador, le candidat de gauche, et il déclare, donc Felipe Calderón déclare à peine élu en fonction, déclare la guerre contre les cartels de la drogue en déployant les militaires dans les rues et en se lançant dans un combat frontal, tout répressif, avec l'appui de Washington et d'un plan qui s'appelle le plan Mérida. Un plan conjoint d'attaque frontale des cartels de la drogue. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que se retrouvant face à l'armée, les cartels se sont armés. En fait, il y a eu une forme de spirale de violence. Les cartels qui sont donc en guerre les uns contre les autres face aux routes de la drogue qui mènent aux États-Unis ou en Europe, mais aussi donc face à l'État. Et se sont retrouvés donc à s'armer et à attiser leur conflit, ce qui a provoqué quand même 450 000 morts en 18 ans et près de 100 000, on est autour de 100 000 disparus. Donc vous imaginez un peu ce bain de sang par rapport à des solutions qui ont été, encore une fois, des solutions qui ont sans doute manqué d'une politique globale et sociale dans un pays qui compte quand même plus de 40% de pauvres.
Donc le tout répressif, si je vous entends bien, Frédéric Saliba, c'est vraiment ce qu'il ne faut pas faire, c'est le contre-exemple.
Alors c'est difficile pour moi, moi je suis journaliste, donc moi j'ai observé un phénomène. Ce que je peux vous dire, c'est que le problème du narcotrafic au Mexique, et on pourrait dire presque le Mexique a 18 ans d'avance sur la France par rapport à une déclaration de guerre frontale, c'est que la pauvreté fait le lit de la criminalité. Il y a d'ailleurs, enfin j'ajouterais que dans les quartiers nord de Marseille où c'est le plus chaud, figurez-vous qu'il y a à peu près 40% de démunis, ce qui font des chiffres qui s'approchent assez du Mexique en tant que pays. Alors, encore une fois, il ne faut pas faire de généralisation, mais quand même, c'est-à-dire qu'on s'aperçoit quand même que dans le problème du narcotrafic, des consommateurs, mais des vendeurs aussi et des narcos, c'est un problème social, éducatif, de manque d'opportunités par rapport à une jeunesse qui est en rupture et qui adopte une narcoculture avec une idéalisation de l'argent facile et un peu de ce fantasme autour des narcos. Et évidemment, si cette dimension échappe à un plan, enfin moi je suis pas contre le tout répressif ou contre, mais par contre je remarque que en tout cas le tout répressif seul n'a pas marché au Mexique et cette guerre pourrait presque être perdue aujourd'hui 18 ans plus tard.
Alors le gouvernement français entend frapper fort et continue de miser sur le tout répressif, hein, à l'image de la lutte contre le terrorisme avec une cellule de coordination nationale contre le narcotrafic, la création envisagée d'un parquet national de lutte contre la criminalité organisée, possibilité d'isoler les détenus en prison, encore faudrait-il qu'on trouve la place. Est-ce que ces mesures, Michel Gandillon, sont à la hauteur du danger et peuvent être efficaces ?
Alors le problème, c'est qu'en France, la lutte contre le crime organisé lié aux drogues est sur le papier assez fantastique, si vous voulez. Vous avez déjà un certain nombre de dispositifs comme les juridictions interrégionales spécialisées qui sont des sortes de petits parquets nationaux à l'échelle régionale. Vous avez l'office anti-stupéfiant, la police judiciaire, un certain nombre de dispositifs. Nous avons un des codes pénals les plus répressifs d'Europe en matière de répression du trafic de stupéfiants, qui, je rappelle, prévoit, qui prévoit des peines qui peuvent aller jusqu'à la perpétuité pour le haut du spectre du crime organisé, pour les dirigeants de ces trafics. Donc, sur le papier, vous avez aussi des organismes qui luttent contre le blanchiment d'argent, la Grasque, Tracfin, etc. Donc, on a un dispositif qui est magnifique sur le papier. Le problème, c'est que les moyens humains n'ont pas du tout suivi. Il y a eu l'année dernière une tribune de magistrats des GIRS qui parlait du dénuement énorme en termes de moyens financiers et moyens humains de ces dispositifs. Donc si j'allais très vite, je dirais que le dispositif ressemble à un village Potemkin, c'est une façade très belle et derrière des moyens humains qui ne suffisent pas. Vous avez par exemple un système qui existe théoriquement depuis le début des années 90 qui s'appelle les cours d'assises spéciales pour juger le trafic de stupéfiants en bande organisée. La justice, faute de moyens, faute de magistrats, n'a pas les moyens de les réunir et cède à l'expédient de la correctionnalisation. Ce qui fait que les peines distribuées n'ont rien à voir avec ce qui est prévu par le code pénal. Je parle du haut du spectre, hein, je ne parle pas des guetteurs, des chauffeurs ou des tout petits trafiquants, mais je parle du haut du spectre du crime organisé. La réponse, dans les faits, n'est pas du tout à la hauteur des enjeux.
Il faut les moyens.
Alors, il faut des moyens humains, effectivement, et budgétaires. Et tout le problème, c'est que nous vivons dans une période, peut-être pas de disette, mais de crise budgétaire. Et il va falloir des moyens énormes pour renforcer à tous les niveaux, d'ailleurs, de la lutte contre le trafic. Ça part des enquêteurs de la police judiciaire sur les terrains, aux magistrats, aux places dans les prisons. Enfin, on a accumulé depuis des décennies un retard gigantesque.
Est-ce qu'on pourrait également imaginer, hors de ce nouveau plan anti-narco-banditisme, des autres solutions? On voit les politiques s'emparer à nouveau de cette proposition de dépénaliser certaines drogues. Est-ce que ça pourrait avoir un véritable impact?
Sur la dépénalisation, alors on parle surtout de légalisation, et notamment de la légalisation du cannabis, puisque Absolument. Un certain nombre d'États, que ce soit en Uruguay, au Canada, plus près de nous, en Allemagne, ont légalisé le cannabis, ce qui est un pas au-delà de la dépénalisation. Le problème, je dirais, c'est que ça ne résoudra pas Alors, ça peut résoudre une partie des problèmes, une petite partie, quoi. Qu'on voit que dans les États qui ont légalisé, il y a une proportion du marché noir qui continue d'être extrêmement forte.
Ça n'assèche pas complètement le marché noir quand on dépénalise.
Non, ça n'assèche pas complètement le marché noir, loin de là. Et le problème aujourd'hui, c'est, je vous l'ai dit au début de mon intervention, c'est le doublement du marché de la cocaïne en France. Donc, est-ce qu'on va mettre à l'agenda la légalisation de la cocaïne ? J'en doute forcément, compte tenu de la dangerosité de cette substance. Donc aujourd'hui, voilà, le gros problème, c'est la cocaïne et les drogues synthétiques. Et je ne crois pas que la légalisation du cannabis soit une réponse et résoudra le problème par enchantement, si vous voulez, du narcotrafic en France.
On en dira un mot. Le président du Salvador, l'autoritaire Nayib Bukele, qui suit visiblement bien l'actualité française, a d'ailleurs réagit très fortement il y a quelques jours contre ces propositions de dépénalisation du cannabis que proposait l'ancien président Hollande pour dire que légaliser un crime, eh bien ça réduit pas la criminalité. Frédéric Saliba, le modèle salvadorien qui a conduit à emprisonner 85% des membres des gangs, alors une répression impitoyable, c'est pas la bonne solution dans une démocratie.
Alors, dans le cas de Bukele et du Salvador, d'abord, M. Bukele est un publicitaire, c'est quelqu'un qui fait des mesures chocs, mais il se trouve que sur l'aspect sécuritaire, alors lui, il est vraiment dans le tout répressif, puisqu'il a construit une des prisons les plus grandes du monde, justement pour ça, pour enfermer donc les maras, ces gangs salvadoriens, centro-américains, qui travaillent avec les cartels mexicains.
Oui, il a vidé les rues, milliers de...
Voilà, alors ce qu'on peut voir, c'est que d'abord, il a arrêté énormément d'innocents, puisque justement, en fait, ces cartels de la drogue, en tout cas ces gangs, donc les maras, ont la particularité d'avoir des membres qui se tatouent. Donc, dès que vous avez un tatouage, vous êtes suspect au Salvador. Donc, attention.
C'est pas n'importe quel tatouage non plus.
Non, c'est pas n'importe quel tatouage, mais il se trouve que dans les arrestations et les rafles, parce que c'est des vrais rafles qu'il a opéré, il y a énormément d'innocents et que les organisations de défense des droits de l'homme tirent le signal d'alarme sur ces arrestations, qui en effet, ces arrestations choquent. Alors vous avez vu en effet que les chiffres au Salvador de la délinquance ont chuté littéralement, la popularité de Bukele a décollé, mais quand on creuse un petit peu, notamment par rapport à des sources de journalistes d'investigation salvadoriens, et notamment un magazine qui est très connu, qui s'appelle El Faro, enfin très connu des spécialistes du crime organisé, où il y a des enquêteurs, ça serait... et qui a réalisé une enquête révélant, preuve à l'appui, que plusieurs proches de Bukele ont négocié avec les chefs de ces bandes rivales cette paix sociale, qui est une paix sociale, attention, momentanée, c'est-à-dire que vous vous retrouvez avec des gens dans des prisons, mais que vont-ils faire de ces prisonniers ? Vont-ils passer leur vie dans ces prisons ? Vont-ils ressortir ? Et en tout cas, les drogues continuent de passer par le Salvador. Donc, on s'aperçoit bien quand même que les têtes des réseaux, et c'est comme l'hydre, alors je sais que monsieur le ministre Retailleau parle de pieuvre, mais moi j'ai plutôt tendance à parler d'hydre, où on coupe des têtes, mais elles repoussent immédiatement parce que c'est un système.
On revient en France après le Salvador, on l'a dit, le problème c'est le cannabis, la cocaïne. Est-ce que le prochain danger, on l'a évoqué, c'est l'arrivée bien sûr de ces drogues de synthèse, et on pense notamment au fentanyl, comme aux États-Unis,
oui,
qui ravage actuellement les États-Unis.
Oui, alors le fentanyl, c'est un opioïde en fait qui était légal.
En quelques mots.
Alors, en fait, c'est simple, c'est à peu près 100 000 overdoses par an aux États-Unis. Donc, c'est énorme et c'est une véritable hécatombe. Et l'Europe est menacée par, justement, l'arrivée de ces opioïdes en Europe.
Et ça sera l'occasion de refaire une émission sur ce thème-là. Merci à vous. Merci Michel Gandillon, expert associé au pôle sécurité à défense du CNAM, auteur de Géopolitique du crime organisé. Merci également à Frédéric Saliba, journaliste, spécialiste également du crime organisé de l'Amérique latine, auteur de Cartel, voyage